Donc dans 3 minutes, 4 minutes.
4 minutes. Alors, messieurs, est-ce que vous pouvez vous exprimer, s'il vous plaît ?
Est-ce que vous pouvez parler ? Vous nous entendez ?
Non.
Attends, faut pas appuyer. Parlez au studio.
Non, moi, ce que je veux, c'est le retour des cartes.
Pour le studio, appuyez ici.
Alors, non, toujours pas. Est-ce qu'on est mieux là ?
Ouais, c'est bon.
Tu t'entends ? Moi, je t'entends pas, moi.
Test.
Est-ce qu'on s'entend ?
Moi, je vous entends.
On s'entend ?
Ouais, je les entends.
Envoyez un peu plus.
Augmente.
Allô.
Vous m'entendez bien ?
Un, deux. Un peu plus. Ok, ça va, je vais pouvoir faire les niveaux.
Nickel.
Parfait.
Alors parlez bien dans le micro, s'il vous plaît.
Oui, bonsoir.
Bien sûr. Bonsoir.
Vous m'entendez également correctement ? Comment ça se passe là ?
Très correctement.
Oui, très correctement.
Alors,
exactement.
Super.
T'as, le niveau de sur Audacity, il est faible.
Niveau sur Audacity.
On est très faible, hein, regarde, sur l'enregistrement.
Écoute, est-ce que c'est parce qu'on est en...
C'est chelou.
Bon, allez, on se lance et on va voir, on contrôle. Hein.
C'est une saturation un peu aussi.
Non, moi, ça sature pas.
Pré-écoute, c'est là la pré-écoute.
Pré-écoute. Écoute.
Bon, allez, là, c'est l'heure. Il reste Suprême NTM, ça y est, ça a démarré. Donc. Bon, à la fin de cette chanson. On démarre.
Ok.
On n'entend pas la chanson. Enfin, moi, j'entends pas la chanson.
Test, mic test 1, 2, 2, 2.
Ok, moi, je t'entends 3, 4, 5, bien. 6. Est-ce que tu m'entends bien ?
Attends.
C'est toujours un peu faible ?
Alors là, c'est bon, j'étais sur l'antenne. Là, moi, je t'entends.
Ouais.
Vas-y, Lulu.
Audacity, ça dit
oui,
quoi ?
Oui, tu m'entends.
Audacity, vas-y, parle.
Audacity. M'entends-tu ?
Doucement. Moi, je m'entends très bien un peu sur Audacity, ça monte. Vas-y, repars, Lulu.
Ouais, est-ce que tu m'entends ? C'est faible ?
Attends, le rec.
Allô ?
Le rec, on parle ? Le rec ?
Oui.
Mic test, augmente tout, on m'entend bien. Lulu, parle.
Oui, est-ce que tu m'entends ? Tu m'entends bien ? 5 sur 5, 4 sur 5 ?
Ouais, c'est bien sur Audacity, regarde.
Ouais, vas-y, Lulu.
Ouais, est-ce que vous m'entendez bien, les gars ?
On t'entend.
Ça va ?
Salut !
Ok, trop bien. Bon, tac. Lecteur VLC, YouTube.
Et je parle encore, là ? C'est bon, tu m'entends ?
Ouais. Ouais. J'ai pas le retour de... Okay.
T'as pas le retour de quoi ?
Non, c'est bon. J'ai pas le retour de la radio parce qu'on est sur Prog 2.
Ok.
Ouais, on n'entend pas la musique.
Ok, très bien.
Tu veux que je remette le son de la radio dans les casques ou pas ?
Ouais, là pour la transition, ouais, je pense.
Casque studio, c'est là.
Tu fais un petit moine ici avec moi.
Je viens de Saint-Denis comme la plupart de mes poissies. Sur la puissance de mon hardcore, mon lyrique c'est pesant car mes mots viennent du nord. Je reprends dans le temps, histoire de temps en temps de te prouver que le rap appartient maintenant. Sur et ma prose car pure et ma cause. Alors je m'impose, bouge ton cul si tu oses défier maintenant le maître du temps. Tempo à l'appui, j'ai détruit ton esprit. J'ai mis effrémissant sur si car je frappe de bas en haut. En direct devant toi, je remonte le niveau. Okay. Le niveau. Encore plus vite sur le beat sans limite car j'ai le sens pratique. Ma vocation est unique, entièrement je m'y implique donc ta mère je n'ai. C'est clair, c'est clair. T'as le toucher ni ta mère. Donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère. Sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère. Donc à l'endroit comme à l'envers, sur les côtés comme par derrière, c'est clair. J'ai le toucher ni ta mère. J'en ai marre, les gens, ils pensent qu'à râler. Ça me fait chier.
Ça me fait chier. J'en ai pas marre, toi. Ah, l'inflation, j'en peux plus.
Ah, mais moi, c'est pareil, mec.
T'as encore la shrinkflation, ils réduisent la quantité de chips dans les paquets. C'est fou.
Bon, ils augmentent la quantité d'air. Ça me fait chier, ça. Tu vas dénoncer.
Moi j'en peux plus là, quand je marche dans la rue, tout ça, ça crie, les enfants, tout ça, moi j'en peux plus. Moi je serais pour que les enfants, les week-ends, restent à la maison. Parce que lorsqu'ils sont dans les parcs et qu'ils crient de partout, moi qui suis retraité, eh ben ça me fait mal aux oreilles. Je suis obligé de retirer mon solotone.
Quand tu t'es frôlé par une trottinette sur le trottoir alors qu'elle devrait être sur la route, franchement j'en peux plus. Moi j'aimerais interdire les trottinettes, c'est pas possible autrement.
Ça fait chier, les caca de chien sur le trottoir. Marche dedans, du mauvais pied. Ça fait chier.
Toi aussi, tu as marché dans une merde ?
Tous les jours. Ça fait chier.
Et l'autre là, putain, l'autre, putain. Mais alors lui, c'est le pompon. Franchement, c'est le pompon. Tu le vois un jour, il te dit ça. Et un autre jour, il te dit ça. Et entre les deux, ben, il te dit rien. Voilà. Et à chaque fois, et toi, tu es laissé dans la merde. Tu dois. Il me gonfle, il me fait chier. Qu'est-ce qu'il me fait ? Putain de merde.
Il a pas plus de sens que ce bordini là, me rend fou. Hein, je lui sers deux ricards et ensuite il part direct, tout droit. On se croirait presque dans le silo à grain.
Ça fait chier, putain. Ça fait vraiment chier, les clodos là. Qui disaient tout fais-toi avec ta salade parce que t'as pas un rond à leur donner.
De la voisine. Je suis au cinquième. La voisine, elle est au premier. Il arrive à se démerder, à monter sur mon balcon et à chaque fois, il me lâche une putain de merde dans mes cactus.
Bordel la queue.
Radio la fin du monde.
Radio la fin.
Radio la fin.
Du
monde. Radio La Fin du Monde, bonsoir, en direct des studios de la Friche de la Mel de B. Nous sommes en direct ce jeudi 27 mars 2025. C'est jeudi, le dernier jeudi du mois, le jeudi de la fin du mois, lorsque les comptes bancaires commencent à être restreints, lorsque l'on attend la paye avec grande impatience. Nous sommes ici réunis à 22h09, pétante, en direct des studios, comme dit précédemment, en compagnie ce soir, ici, Richard Baclay, à mes côtés, l'inextricable Blinis Sambuca, bonsoir.
Et bonsoir, cher téléauditeur, c'est toujours un honneur d'être introduit par le grand Richard Baclay, s'il en est,
nom incommensurable, incroyable, inépothétiquable hein, de cette radio. Et ce soir, bien sûr, heureux bien sûr d'être là, heureux d'être avec vous, heureux d'être sur les ondes, en direct, sur donc à la radio de la Galère, 88.4 bien sûr. Ce soir, si vous voulez nous joindre à l'antenne, bien sûr, nous rappelons que c'est tout à fait possible. C'est le miracle de l'Internet et de la fibre optique. Vous pouvez nous appeler directement au 04 91 08 28 10 si vous avez des velléités et des envies de vous exprimer sur les sujets que ce soir nous allons vous présenter.
Ce soir, comme sujet au cours de ce débat avec nos deux experts, je reçois tout d'abord le colonel Chabert. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, colonel Chabert. Vous êtes ici au nom d'un conglomérat de groupes paramilitaires, ici pour essayer d'un petit peu éclaircir la situation qui s'est... Si les Marseillaises et les Marseillais observatrices et observateurs des paysages alentours ont pu remarquer les grands travaux d'aménagement de notre chère bonne mère. Et vous êtes ici un petit peu pour nous donner un avis tout à fait novateur sur ces travaux d'aménagement. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'inviter et j'espère éclaircir la situation comme vous le dites parce que c'est assez tendu quand même.
C'est assez tendu, oui. Au vu du climat géopolitique mondial, vous êtes ici en tant que demi-expert de location et vous êtes en compagnie du lieutenant sous-colonel, donc votre bras droit, si j'ai cru comprendre, Maximilien. Bonsoir, Jean-Maximilien.
Jean-Maximilien, tout à fait.
Moubarak, c'est ça.
Moubarak. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation.
Merci. Alors,
très honoré.
Votre fiche de poste est pas très très claire. Alors, que sont ces échafaudages ? On a lu dans La Provence, on a lu dans Mars Actu, on a lu dans d'autres revues de presse que ces travaux, ces échafaudages étaient là pour des travaux de restauration hein, de la statue de la bonne mère et de son saint enfant. Vous vous dites autre chose. Vous vous dites que justement, après les différents discours qui se sont fait entendre sur les ondes radiophoniques, les ondes hertziennes, la fibre optique, le réseau Starlink aussi, nous sommes en présence d'une situation de bifurcage. Hein. Nous sommes à un point névralgique ou un point de basculement, peut-être historique, avec... pour une première fois, l'arme nucléaire qui arrive à Marseille avec ce premier silo bien visible de l'ensemble de la population. Où justement, pourquoi Marseille a-t-elle besoin de se doter de l'arme nucléaire afin de dissuader ses voisins ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer tout ça ?
Alors, Marseille, ça a toujours été une ville stratégique au niveau militaire, au niveau... français, même si Marseille est à part de la France. C'était important pour nous de lancer le programme Laïka depuis Marseille et pas depuis une autre ville parce que le danger peut venir de partout et Marseille peut lancer des missiles partout.
Alors vous, colonel Chabert, vous êtes... Vous avez opéré sur plusieurs théâtres d'opération, éparses à travers les 5 continents. Vous revenez d'un séjour aux îles Féroé de plusieurs mois,
oui.
Dans des conditions hivernales extrêmes. Un séjour top secret. Pourquoi ce séjour top secret ? Et a-t-il un lien avec ce programme de dissuasion nucléaire Massaliot ?
Alors... Comme vous l'avez dit, c'est top secret, donc je ne peux pas vraiment m'épandre sur le sujet. Mais il y avait des chefs d'État, il y avait des chefs d'État-major aussi pour justement discuter de la situation globale, mondiale et le réarmement mondial.
Alors pourquoi cette nécessité, ce réarmement soudain du complexe militaire ou industriel nucléaire français ?
Alors, si
vous pouvez rapidement rappeler le contexte géopolitique.
On a déjà Donald Trump qui
Donald Musk, vous voulez dire?
Donald Musk, pardon, oui, non, Donald Trump, c'est son cousin, excusez-moi, j'ai tendance à confondre les deux, avec le chef du Pentagone.
Elon Trump, qui est directeur du Pentagone, et on a également le directeur du Théâtre National Américain, Elon Trump.
Bien sûr. Donc, on en est là, il nous fait des gros yeux, il nous montre les dents, et à côté de ça, on a...
Alors, est-ce qu'il montre les canines, il montre les prémolaires, ou est-ce qu'il montre l'ensemble de la dentition?
L'ensemble de la dentition, il a un beau dentier, il a un très beau dentier, et il nous le montre violemment là.
C'est souvent en éthologie, lorsque un animal, un mammifère, déploie l'ensemble de sa dentition, cela peut être pris comme un signe de menace extrême.
Exactement.
Et de grand danger.
Exactement.
Alors, évidemment, ce n'est pas... Ce comportement n'est pas observable chez tous les animaux. Hein. Il y a plusieurs exceptions à certaines règles. Cependant, c'est un comportement qu'on va retrouver de manière globale. Alors vous, en tant que grand expert géostratégique, vous êtes assez inquiet de cette dentition. D'ailleurs, qui n'est pas forcément d'une blancheur extrême.
On voit qu'il y a la fumée déjà. Et le problème, c'est qu'il a 3 canines sur les dents du haut. Donc franchement, c'est très, 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 très inquiétant.
Donc D7, D13 et D8 pour les dentistes qui nous suivent.
Ça doit être ça, je ne suis pas dentiste, mais...
On salue d'ailleurs la faculté de Latimone qui, généreusement, nous fait des dons au niveau du mécénat pour que nous puissions réaliser cette émission. Je vois que le sous-lieutenant-colonel Maximilien réagit, un sourire au coin du lèvre.
J'acquiesce.
Oui, vous avez envie de rajouter quelque chose justement sur ça. Vous, c'est cette dentition bien visible et tremblotante, ça vous effraie pas, vous?
Ça ne m'effraie pas. Moi, j'ai une théorie sur laquelle je pense qu'il a un peu abusé de carottes, parce qu'elles sont bien oranges, et je crois savoir qu'il raffole de carottes.
Donc on ne serait pas sur une exposition trop prolongée au tabac, mais justement plutôt à de la bêta-carotène.
Peut-être fume-t-il de la carotte à ce niveau-là. C'est tout à fait possible et envisageable.
Alors je ne sais pas si c'est coutumier sous nos latitudes de s'exposer à l'inhalation de carottes séchées. Cependant, nous pouvons questionner notre fan club en direct internet. N'hésitez pas à nous joindre au 04 91 28 08 28 10 si vous avez de la nouveauté à nous assurer. Donc vous, Jean-Maximilien, sous-lieutenant-colonel, vous êtes un spécialiste de l'échafaud.
Tout à fait.
Alors l'échafaud, vous avez effectué une thèse historique. Ça, c'était pendant votre jeunesse. Puis vous avez intégré le corps du génie civil. Corps militaire du génie civil, et vous êtes totalement spécialisé lorsque vous avez séjourné plusieurs années, je crois, vous me corrigez si je me trompe, entre 5 et 7 ans, vous ne souhaitez pas être très précis sur la date, justement dans la province du Xinjiang, dans les gigantesques bambouseraies qui, depuis plusieurs millénaires, permettent la construction de gratte-ciel hein, sous ces latitudes sinophiles, assez grand, et vous avez tenté d'importer cette technique en France, ce qui n'a pas pris du tout. D'ailleurs, on voit depuis que 2 semaines l'interdiction de planter du bambou en France, donc ce qui ne va pas forcément faciliter l'émergence de ce nouveau secteur d'activité. On va rester sur des échafaudages en acier, c'est ça?
C'est ça, tout à fait typique européen et sans bambou, non.
Sans bambou.
Sans bambou.
Sans bambou, c'est...
Fer, métal.
C'est devenu illégal, le bambou.
Le bambou est illégal.
Alors, le bambou dans la rue, le bambou dans le chez-soi, c'est une espèce invasive, le bambou.
Le bambou interdit de partout.
Mais pourquoi chez nous, y a-t-il cette difficulté à cultiver du bambou pour la réalisation d'échafaudages? Vous avez milité depuis 6 mois. Vous avez presque entamé une grève de la faim sur le parvis de Notre-Dame-de-la-Garde pour justement...
Pour l'introduction du bambou... Tout à fait.
Au début des travaux, justement, pour que l'enrobage de la bonne mère qui va suivre la préparation, la mise en place de l'électroménager à l'intérieur du silo, des nombreux câbles électriques qui vont être nécessaires, de la fibre optique aussi pour que le réseau Ratio, hein, qui est ce réseau Internet ultra rapide qui permet au président de la République, où qu'il soit, de pouvoir transmettre des ordres en direct à l'aide d'une mallette qui est reliée par satellite et en intraveineuse au au réseau de la lithosphère. Ça, c'est des derniers cris, ça. Ça, c'est vous qui l'avez écrit dans un bouquin, hein. Je ne vais que vous citer.
Et le détail qui tue, c'est qu'elle est en crocodile du Nil, la mallette.
La mallette est en crocodile du Nil.
C'est pas n'importe quoi.
Alors, justement, c'est un taxidermiste qui réalise cette mallette.
Taxidermiste égyptien.
Ouais, qui est immigré en France après la campagne napoléonienne d'Égypte, excusez-moi.
Oui, il a été ramené en tant que sujet pour le zoo de Paris, notamment. On a tous les documents dessus, on a fait la petite recherche là, avec nos compères, bien sûr, Grébel et Abydos. Et oui, ce monsieur, en fait, après 30 ans de bons et loyaux services, a eu l'opportunité donc, d'obtenir des papiers d'état civil. C'est pas la Légion, mais bon, voilà, la Légion, c'est 10 ans, 5 ans. Là, il s'est quand même engagé 30 ans hein, donc, dans un zoo. Et puis, une fois qu'il a obtenu cette liberté, donc, il a pu fonder une famille. Et il a donc transmis ce savoir-faire petit à petit. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Poincaré, président Poincaré, hein, qui était un égyptophile remarquable et remarqué. Hein,
absolument.
Passer la plupart de ses soirées, notamment donc à l'école du Louvre, à prendre donc les cours gratuits du soir, incognito bien sûr, hein, vous pouvez trouver ça dans ses mémoires, mais c'est lui qui du coup va un jour, en passant dans le quartier, hein, repérer donc ce petit descendant d'artisans égyptiens.
Hein. On est en 1813, ça.
À peu près. Hein, Poincaré, c'est un petit peu plus tard quand même. Là, on est sur la deuxième génération de fabricants, du coup, hein, une fois que le monsieur a eu sa famille après la campagne d'Égypte. Donc, il est libéré à peu près en 1832, quelque chose comme ça. Il a le temps de fonder une famille. Et c'est un petit peu plus tard hein, que Poincaré donc, va arriver, va passer donc, par cette petite ruelle, rue du Faubourg Saint-Nestlé, à Paris.
À Paris.
Hein, voilà. Et il va découvrir toute cette manufacture, donc avant, bien avant Louis Vuitton. C'est aussi un symbole. Hein. Et donc, il va décider, en devenant président, de rendre l'appareil, donner un petit coup de pouce, hein, un petit peu plus de la France pour se faire pardonner donc, à cette famille égyptienne. Et donc depuis, oui, toutes les mallettes nucléaires françaises, toutes les mallettes d'importance, hein, peu importe leur fonction, sont faites dans cette peau de crocodile du Nil par cet artisan bien spécifique.
Bien spécifique. Alors, si, j'imagine qu'il a répondu à un appel d'offres, partenariat public-privé, mais qu'il gagne tous les 5 ans, c'est ça ?
C'est ça. Il y a un souci quand même de la préservation des savoirs. On est sur des savoirs qui viennent de la source. Hein, à un moment donné, un Égyptien qui travaille du crocodile du Nil, je pense que vous ne pouvez pas faire plus à propos hein, en termes de savoir-faire, de capacité, de maestria hein, et d'expérience, bien sûr. Donc, naturellement, on respecte les lois de la République. Hein, on fait un appel d'offres. Hein, et puis, à chaque fois, en fait, le résultat est sans appel. Quoi.
Pour les amateuristes de maroquinerie, sachez que ce magasin, donc rue du Faubourg Saint-Nestlé, à Paris, a ses premiers prix de sac à main en croco. Donc, je rappelle le nom de la boutique, Sobek Maroquinerie. N'hésitez pas à y aller. Code promo Radio La Fin du Monde. Vous avez une remise de 25% sur le premier achat.
Et les pots sont biosourcés. Attention. Tiens, le préciser quand même dans le respect hein, de l'environnement et dans le respect, bien entendu, des conventions de Genève. C'est très important, il faut le dire aussi.
C'est très important. Je vous vois pouffer dans votre coin, colonel Chabert, à l'évocation des crocodiles du Nil. Ça vous rappelle un théâtre d'opération dans lequel vous avez voyagé ?
Ça me rappelle surtout mon arrière-arrière-grand-père, justement, qui a participé à la campagne d'Égypte avec Napoléon.
Alors, racontez-nous. Grand-père, il s'appelait comment, votre grand-père ?
Il s'appelait Ernest.
Ernest.
Et donc du coup, papy Ernest, comme on l'appelle dans la famille, a participé à la campagne d'Égypte et a aidé Champollion à décrypter la pierre de Rosette. Et la recette, si je puis me permettre, de la fabrication de mallettes en peau de crocodile était inscrite sur la pierre de Rosette.
En tout petit, en astérix.
En hiéroglyphe.
C'est un petit astérix qu'on trouvait sur le bas de la pierre de Rosette, chose extrêmement rare.
Bien sûr. Et c'est là qu'ils sont allés chercher cet artisan pour justement le ramener en France et perpétuer cette tradition jusqu'à nos jours.
Alors votre arrière-arrière-grand-père, je tiens à le préciser aux auditrices et aux auditeurs, alors il vous a légué un journal de bord.
Ouais. Hein,
donc parfois, c'est de là que vous citez vos sources. Justement, c'est la première fois, c'est à partir de la pierre de Rosette que se sont inspirés les grands du marketing pour annoter au bas de la page, après un astérix, les conditions générales d'utilisation qui bien souvent peuvent nuire aux consommatrices et consommateurs qui ne lisent pas.
Bien sûr. Et justement, on s'est inspiré de ces astérisques à la construction de Notre-Dame de la Garde pour justement écrire en petit caractère qu'à tout moment, ça pouvait être réquisitionné par l'armée pour le transformer en silo à missiles nucléaires.
Et là, avec l'arrivée en 2025, Bindi, je vois que vous voulez rebondir.
Il y a une bataille juridique. Mon sous-colonel, je pense qu'à un moment donné, c'est pas réglé. Hein. Il y a une plainte donc, qui a été déposée en affirmant notamment donc, que cette déclaration avait été faite notamment pour le fort qui avait été érigé par donc, François Ier, hein, je le rappelle, hein, autour. Donc,
ça a toujours été un site militaire.
Toujours été un site militaire en
historiquement
soi, hein,
parlant. Quoi.
Mais l'argumentation donc, d'un groupe de militants écologistes qui donc, appelle à la sauvegarde donc, de Notre-Dame pour d'autres raisons que le patrimoine, on y verra peut-être un petit peu plus tard, mais. Mmh. En tout cas, disent que l'astérix concernait justement les pierres du premier fort et que la complétion donc, de Notre-Dame de la Garde ainsi que de la forteresse qui l'entoure
et de la statue de la Vierge.
Et de la statue de la Vierge ont nécessité l'apport de nouvelles pierres et donc on ne pouvait pas considérer que le bâtiment pour lequel le contrat avait été signé pouvait donc juridiquement être le même que celui qui avait été terminé ensuite. Hein, donc je rappelle notamment hein, l'érection donc, de la basilique de Notre-Dame de la Garde hein, vers la fin du 19e siècle.
Absolument. Par Jacques-Henri Espérandieu.
Espérant Dieu, tout à fait, dans un style romano-byzantin tout à fait formidable. D'ailleurs, ce style romano-byzantin, est-ce que c'est pas un symbole d'avoir un silo nucléaire de style romano-byzantin ?
Je crois que c'est le premier du genre.
Oh, c'est le premier du genre. On est sur un site assez formidable. Marseille, c'est la porte de la Méditerranée, c'est la porte vers le sud. Hein. Et donc, ne sommes-nous pas donc au carrefour géographique et culturel, en fait, de cet espace militaire méditerranéen, de ce grand théâtre hein. Est-ce que vous pensez que, justement, cette position géographique marseillaise et cette multiculturalité, justement, fait de ce silo nucléaire donc un avertissement qui rayonne, un peu comme un phare, d'une certaine manière, hein, sur toute la Méditerranée, qui fait rayonner la puissance française ?
Oui, bien sûr. Ça dit la France est multiculturelle, la France est une et indivisible, donc du coup... La France peut faire peur, la France peut montrer les dents, avec uniquement deux canines, mais au moins on peut montrer les dents comme Elon Trump. Et on peut montrer les dents aussi aux gens du Sud, qui essayent de faire les malins à s'armer aussi de silos nucléaires. Donc on montre par cette action qu'on ne va pas se laisser faire aussi facilement.
Vous faites appel à la réputation historique hein, donc de la France comme une vaillante guerrière, hein, farouche guerrière. Je rappelle que c'est quand même la nation qui a remporté le plus de batailles, hein, en tout cas en Europe. Hein. Bien sûr que notre histoire est largement lacunaire, notamment concernant donc, bah, tout ce qui est l'Afrique, l'Asie et les Amériques précolombiennes, comme on dit, naturellement. Donc,
avec des troupes innovantes aussi, comme les troupes du GIEC, ouais. Dont on a parlé ici dans une émission il y a quelques
formidable
années.
Formidable émission, oui.
Le groupe d'intervention des écuries cavalerie.
Cavalerie, cataphracte aéroporté.
Cataphracte aéroporté.
Incroyable.
Création française. Il faut le voir pour le croire. Ça.
Messieurs, et je m'adresse aussi plus particulièrement donc à vous, à Jean. Hein, Jean Moubarak, vous êtes dans l'armée. Vous êtes donc catholique.
Oui.
Est-ce que ça vous fait pas un petit peu mal au cœur quand même ?
C'est à double tranchant. C'est un débat qui reste tout à fait ouvert sur ce point et j'entends les avis divergents. Moi-même, je suis en contradiction avec ce que j'opère, mais ma mission est ma mission et j'irai jusqu'au bout.
Qu'est-ce que ça vous fait de devoir suivre les ordres ? Parce que parfois, vous n'avez pas envie un petit peu de l'uniforme, comme ça, de l'arracher
Ça m'arrive de temps en temps, mais je me rappelle à mon droit chemin et...
Et d'embrasser la robe.
Je...
La robe de prêtre, hein.
Bien sûr. Je suis toujours croyant et fervent catholique, défendeur de Dieu.
Mais vous êtes plus pour les saintes croisades. Vous êtes plus pour les saintes croisades, tout ça, vous battre au nom de Dieu. Non, vous avez dépassé tout ça.
Non, je pense qu'on a dépassé tout ça. Nous sommes au 21e siècle
Et oui, mais on sait très bien qu'au XXIe siècle, il y a toujours des distorsions religieuses qui poussent à une extrême violence. Hein, alors bien que entendu. Les raisons ne semblent pas être évidentes lorsqu'on se pose autour d'un feu avec le livre et qu'on prend la peine de lire les messages d'ouverture, on tombe dans une violence qui malheureusement, voilà, c'est l'instrumentalisation politique. Bon, vous n'êtes pas ici pour faire de la politique, vous êtes des militaires, on vous donne un ordre, vous l'exécutez.
C'est ça, on applique les ordres.
Voilà, mais vous préférez recevoir des ordres des uniformes militaires plutôt que des cols blancs, j'imagine. Et donc là, vous vous retrouvez parfois un peu en porte-à-faux avec la classe politique, j'imagine.
Bien sûr. Si
après, si vous ne pouvez pas parler librement, vous pouvez, hein, n'hésitez pas.
Je ne suis pas tout à fait libre, c'est clair.
Ah non, vous avez un devoir de réserve.
Un devoir
militaire.
De réserve.
Vous êtes militaire. Exactement. Vous êtes militaire. Mais bon, pour la question centrale, lorsqu'on vous voit, Jean-Maximilien, c'est ces échafaudages, voilà. Vous êtes quand même le chef opérateur de la montée de tous ces échafaudages. Il y a quand même 25 tonnes d'acier là, qui ont été transportées, hein, pour réaliser ce sarcophage en acier, hein, qui va permettre donc d'accueillir un missile Satan 2 de l'armée française, missile, en point fixe. Est-ce que ça ne risque pas de déjouer à la ville de Marseille et à ses habitants de sentir que la bonne mère qui était la grande gardienne peut devenir aussi la grande destructrice et la source d'un cataclysme aux conséquences, que ça pète, toute la rade pète, quoi. Le chibroc des mers serait capable de se réveiller.
Tout à fait. Mais je pense que c'est une arme de dissuasion, donc ce qui permet aussi
ouais, mais y a quand
une
même
certaine protection de toute la population marseillaise. Et française.
J'entends, mais il y a quand même donc des matériaux nucléaires fissibles en plus, qui plus est, hein, qui seront sur le territoire. Alors déjà, est-ce qu'il n'y a pas de risque en plus avec chaque week-end, avec le stade Vélodrome qui et sa chaleur qui fait trembler l'ensemble du territoire, est-ce qu'il n'y a pas des risques? Est-ce que vous avez mesuré une équipe de sismologues, pas les derniers accueillis des études. Moi, je parle de sismologues sérieux, hein, qui ont bossé à Yellowstone, qui ont bossé sur des grands lieux avec une sismologie, une activité sismique extrêmement grande. Est-ce que chez nous, ça peut s'appliquer?
Bien sûr. Nous nous sommes entourés des meilleurs sismologues. Le travail est tout à fait sérieux. Nous avons élaboré tout un plan et nous avons bien calculé donc tous les tenants aboutissants. Et tout est pris en considération pour protéger
tout, sans langue de bois, tout.
Ça peut aller du.
Si je vous pose une question, vous êtes capable de me répondre.
Tout à fait.
Poursuivez, allez-y.
Donc ça peut aller des vibrations. Donc on a un système hyper solide, hyper sécure. Nous, ça fait déjà des années qu'on est sur le projet.
Qu'est-ce que vous avez utilisé comme appareil pour prendre ces prises de son?
Des sondes. Tout type de
sondes. Pour écouter l'infraordinaire, les microsons. Quoi.
Les microsons.
Dans le béton, les sondes, c'était dans le béton, c'est ça?
C'est ça.
Les fissures de béton,
elles sont un peu dispositionnées dans des endroits stratégiques de la ville, donc notamment sous le vélodrome, sous le vieux port. Vraiment pour ressentir toutes les secousses et les anticiper.
Et alors, donc, est-ce qu'on sera capable d'anticiper un stade Vélodrome qui explose?
Tout à fait. On est préparé à toute éventualité et tout est ficelé de la meilleure des manières.
Mais c'est là où on voit quelques questions sur Internet qui disent « Ce monsieur nous ment, le stade Vélodrome est imprédictible ». Comment peuvent-ils anticiper des scénarios que nous-mêmes, alors qu'on se creuse la tête à l'imaginer, nous ne pouvons pas les anticiper?
Nous avons poussé la barre plus haut que ce qui a été déjà mesuré, si vous voulez, sur le stade Vélodrome. Donc nous sommes allés au-delà. Donc éventuellement, si cela dépasse le seuil, nous sommes capables de le prévoir.
Vous?
Oui.
Vous ou une intelligence artificielle?
Les sismologues, l'intelligence artificielle, tout réunit, nous, quand je parle de nous.
Ah, voilà.
C'est toute une équipe qui travaille derrière.
Ah.
Bien sûr.
Donc, il y a une intelligence artificielle aussi derrière. Toujours.
Bien sûr.
Vous pouvez plus nous le cacher, ça.
Non, mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet.
Colonel Chabert, je vois que vous voulez rebondir là, sur ce à la nomination de l'intelligence artificielle.
Oui,
ça vous fait bondir sous votre casquette.
L'intelligence artificielle, malheureusement, à l'heure actuelle, on ne peut pas s'en passer. Même si ça remplacera jamais un cerveau humain, ça remplacera jamais un militaire, un vrai militaire, un vrai commandant de guerre.
Un vrai militaire comme Jean-Maximilien, quoi.
Comme Jean-Maximilien, exactement. J'ai une totale confiance en Jean-Maximilien au niveau sismologie et échafaudage. Mais malheureusement, on ne peut pas se passer de l'intelligence artificielle et ça me fait mal au cœur parce que...
Alors pourquoi la France ne peut plus se passer ne peut plus se cacher dans cette course effrénée à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on ne serait pas, d'une certaine manière, sans vouloir utiliser de métaphores crues, dans une sorte de concours de qui a la plus grosse entre les différentes puissances?
Oui.
Ou les différentes sociétés privées, attention.
Ou les différentes sociétés privées.
Alors déjà, j'aimerais vous corriger sur un point.
Je vous laisse me corriger sur un point, tout à fait.
Ce ne sont plus les missiles Satan 2, mais les missiles Laika, lanceurs atomiques intercontinentaux en mode cuillère autogéré. Ça veut dire que autogéré, c'est les missiles guidés par intelligence artificielle.
Donc ils ne peuvent pas se gourer.
Normalement.
Tant qu'ils ont les bonnes données, ça ne peut pas se gourer.
Bien sûr. Il y aura quand même un opérateur qui rentrera les données et l'intelligence artificielle derrière
exécutera l'ordre.
A les capacités de les corriger, déjà, et dans la mesure où l'ordre est bon, exécute l'ordre. Mais on a dépassé le stade où l'intelligence artificielle peut corriger. Par exemple, si on veut envoyer un missile sur Washington et que...
Attention, on n'a pas le droit de mentionner ce type de signe. Je tiens à vous corriger, voilà. Je tiens à dédouaner, on ne souhaite pas envoyer de missiles sur Washington.
Non, bien sûr, ce n'est qu'un exemple.
Méfiez-vous, colonel Chabert. Pour rappel, c'est vous quand même l'autorité militaire ici. Vous rappelez les règles de bienséance vis-à-vis des ondes radiophoniques et hertziennes sur lesquelles nous opérons.
Là, il nous montre les canines. Moi aussi, je peux montrer les canines.
Moi, j'ai pas envie d'être embarqué à la sortie du studio.
Non, vous inquiétez pas, je suis responsable. Moi, lieutenant-colonel Chabert, je suis responsable de ce que je dis.
Vous n'avez pas l'air, hein. Se méfie un peu, monsieur Chabert. Hein.
Elon Trump nous montre les dents.
Ouais.
Moi, je peux montrer les dents aussi.
Oui, mais vous, c'est pas vous qui pouvez appuyer sur le bouton. C'est pas vous, le président des armées. Vous êtes colonel, simplement.
Oui, mais je m'engage. Je suis quand même conseiller du président des armées.
Ah, ça, vous nous l'avez caché.
Ah bah voilà. Je dis les choses. Je n'ai pas peur de dire les choses.
Vous n'avez pas peur. Jean-Maximilien, vous voulez ajouter quelque chose? Vous aussi, vous avez des vérités cachées sous votre chapeau, sous votre casquette?
On a notre mot à dire.
S'il y a un mot à dire, c'est lequel alors?
Attention.
Vous n'êtes pas rassurant.
Attention.
Vous n'êtes pas rassurant.
On est là pour la vérité et non pour être rassurant. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer les dents. On montre les dents et les nôtres ne sont pas oranges.
Elles sont de quelle couleur alors?
Elles sont blanches.
Bleu, blanc, rouge.
Bleu, blanc, rouge.
Billy, vous voulez rajouter quelque chose?
Moi, j'aurais aimé justement qu'on explore un petit peu plus cette histoire d'IA et de missiles. Du coup, est-ce que le lanceur, hein, le soldat qui exécute l'ordre, est-ce qu'il peut parler avec son missile? Est-ce qu'il peut échanger avec l'IA qu'il y a dans le missile?
Par écrit.
Par écrit seulement?
Oui, uniquement par écrit. Parce que. On a essayé avec l'intelligence artificielle vocale, mais avec les différents accents, les différentes intonations, ça pouvait être mal interprété par le missile.
Ah, ok, le problème des accents. C'est pour ça que donc, vous avez évité cette technologie. Ça fait combien de temps en fait, que vous aviez prévu de mettre ce silo nucléaire? Parce que quand on voit que vous aviez quand même pris à l'avance du coup, le soin de bien étudier quelle commande on va utiliser pour l'IA... Ben ça a l'air d'être un projet qui, au final, on nous le sort comme ça, là, la Russie, l'Ukraine, etc., etc., Elon Trump, etc., Vladimir Poutine. À un moment donné, ça fait combien de temps? On voudrait quand même. Alors, je sais que vous êtes sûrement tenu par le secret militaire, mais est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette, un ordre d'idée, quoi? Ça fait combien de temps à peu près que c'est dans les tuyaux, quoi, cette histoire?
Ça fait
c'est dans les silos, d'ailleurs.
Voilà. Depuis l'investiture de Christiane Wessel. À la métropole.
Ah, Christiane Wessel. Intéressant ça. Donc c'était il y a
Une dizaine d'années maintenant. On a eu le temps de peaufiner la technologie et de se rendre compte que l'écrit était mieux
que le vocal,
bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a amené à ces conclusions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le protocole que vous avez utilisé pour les auditrices et les auditeurs?
Par exemple, un missile va comprendre le mot missile. Si on dit missile, il ne comprendra pas. Donc, du coup,
vous accentuez un petit peu la première syllabe.
Voilà.
Ou missile.
Missile. Missile, il va comprendre que c'est une moitié de cil. Donc, du coup, il ne va pas se lancer. Alors que si on écrit missile sur un clavier,
c'est clair,
concis, il va comprendre, il va se lancer.
Ok.
Oui, c'est la magie de la langue des oiseaux, ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le distinguer à l'oral.
Exactement.
Et pour les fautes de frappe
C'est pour cela qu'il faut faire très très attention quand on écrit, et c'est à prendre avec des pincettes.
Merci Jean-Maximilien.
Vous avez intégré différents correcteurs.
J'ai fait des formations en prompting.
C'est ça, tout à fait. Il y a des correcteurs automatiques, donc pour éviter toute faute de frappe. Mais à vérifier à chaque fois, à chaque message envoyé.
Voilà, je tiens à dire que les messages, les ordres sont relus.
Et relus.
À chaque fois, pour justement vérifier qu'il n'y a aucune faute de frappe. On a un dictionnaire de 600 pages avec des mots utilisés. Si un mot n'apparaît pas dans le dictionnaire, on n'a pas le droit de l'utiliser pour les missiles.
Ça ne se lance pas, quoi.
Ça ne se lance pas, exactement.
Il y a un fail safe, il y a une sécurité.
Oui, bien sûr.
Avec ce genre d'outils, il faut une sécurité très importante.
On se retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale. Chers auditrices, chers auditeurs, merci de rester accrochés à vos sièges, à vos canapés pour la suite de cette émission qui arrivera d'ici une dizaine de minutes. Radio La Fin.
Radio La Fin.
Du monde.
À toi, mon amour, que je ne retrouverai jamais. Tu m'as accompagné pendant si longtemps. Tu m'as éclairé de tes phares pour la première fois. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et ton volant, ta moumoute sur le volant, ton levier de vitesse, qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce que je regrette de t'avoir planté dans un platane sur la 7? Comment je pourrais trouver une voiture comme toi? En plus, c'était mon outil de travail. Mais bon, il faut que j'aille de l'avant. Je sais qu'au fond de moi, je pourrais retrouver un outil comme toi. Que je pourrais retrouver une carrosserie aussi douce que une moumoute, ça se change. Et je garde espoir qu'un jour nous nous retrouverons.
Mmh. Moi j'aimerais profiter de ce temps de parole court pour te joindre à toi, ma belle étoile. Toi qui se trouves dans cette galaxie si lointaine, tant d'années lumière nous séparent et je te sens pourtant encore si proche de moi depuis qu'on a valsé ensemble par cette belle nuit d'été en 1995 sur les contreforts du Périgord, le mont Florentin, camping sauvage, un feu de camp, et je revois encore ton halo descendre du firmament et venir poser ta main contre moi. Et cette chaleur si douce qui envahit tout mon corps.
Tu me manques. Tu me manques vraiment. Et depuis cette nuit, je ne suis plus le même. Je suis en quête de toi. En quête de toi, mon étoile. Mon étoile brillante. Entends-tu les battements de mon cœur qui joue du piano pour toi? À toi, XL643, exoplanète numéro 16000. Reviens vers moi.
Première fois que je t'ai vu, je me baladais dans le grand nuage de Magellan. Et puis, au loin, d'un coup, j'ai vu une espèce de phare, un bip lumineux qui se répétait. Alors, j'ai avancé, bien sûr, je suis allé vers toi, dans mon corps karmique. Et puis, tu étais là. Tu étais là. En train de tourner à une vitesse folle. J'avais vraiment l'impression que tu étais sur une scène avec des planches de bois sous tes pieds et que tu m'offrais un ballet éternel et infini, une ronde folle en même temps, à plus de 100 000 rotations secondes. Pour moi, tu étais le plus beau de tous les quasars. Tu allais si vite. Tu dégageais tant d'énergie. C'était magnifique. J'en ai eu le souffle coupé. Ce qui est difficile dans l'espace, c'est dire. Et puis, malheureusement, je t'ai vu petit à petit accélérer, rentrer en intensité. Ton énergie a commencé à déborder. T'es mis à tourner si vite, un espèce de derviche tourneur céleste, galactique, entraînant avec toi une myriade de poussières, d'étoiles, le ciel s'est embrasé avec toi. Et je ne savais pas quoi penser. J'étais là, devant ce spectacle. C'était inouï, c'était une beauté, c'était la première fois que je pouvais voir ça. Et en même temps, au fond de moi, je sentais que je ne faisais que vivre tes derniers instants.
J'aimerais dédier ce morceau de piano
ma chère constellation, à ma Dulcinée, à notre éphémère relation, un sens unique qui, depuis une longue errance, m'a permis de vous trouver. Merci de m'accueillir parmi vous. Merci, je suis ici pour pleurer mon chagrin, une perte, mais après cette perte, je vous ai trouvé, vous. Et la félicité regagne petit à petit les fissures de mon cœur. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire merci.
Merci à toi.
Bon ben merci Christian de... Merci Christian.
Ouais, merci.
Merci Toufik.
Franchement.
Et Gilbert. Et tous ces témoignages... Voilà, vous êtes ici dans un groupe de parole où vous êtes en sécurité pour pouvoir vous exprimer sur vos chagrins d'amour stellaire qui vous manque. Est-ce que vous pouvez me passer un mouchoir, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr.
Voilà, vous pouvez faire passer la boîte à mouchoirs.
Merci.
Donc voilà, après ces témoignages, c'est un temps de parole libre. Si vous avez envie d'échanger entre vous, vos coordonnées, pour continuer justement ce long cheminement qu'on a entamé ensemble depuis maintenant quelques trimestres, ensemble, toutes et tous.
Je ne sais pas si vous m'entendez correctement dans le fond de la salle, mais voilà.
On vous entend, on vous entend.
Donc voilà, je vais passer maintenant la parole brièvement au vicaire de notre groupe pour qu'il puisse vous rappeler les modalités d'expression et forfaitaire ainsi que les adhésions à l'association. Je vous rappelle que nous avons une échéance mensuelle à honorer et on fera passer entre vos rangs un chapeau. Vous pouvez mettre une pièce, un billet, une friandise ou tout simplement faire un don d'air, ce qui nous pourra certainement toujours nous aider, parce qu'on sait que l'air est chargé ici de bienveillance, d'entraide et d'empathie, et surtout de compassion. Je crois que ce qui manque avant tout dans notre société à l'heure actuelle, c'est simplement vraiment la compassion, quoi. Donc je laisse maintenant la parole à Antoine. Bonsoir Antoine.
Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc Antoine, vicaire donc de l'association des cœurs brisés karmiques. Donc je vous rappelle que ce qui nous unit ici, donc ce sont nos expériences hors de notre corps, hein, et c'est naturellement les rencontres que nous allons faire, que nous avons fait. Et qui aujourd'hui nous ont laissé des traces indélébiles. Et ce groupe de parole, donc cette association, a été créée pour pouvoir justement libérer cette parole, pour pouvoir fournir un foyer en fait, hein, à tous vous, à tous qui êtes ici sur les ondes de radio et dans cette salle, hein, tous ceux qui ont cette passion en commun. Donc comme l'a dit Jean-Eudes, au niveau des cotisations, alors à quoi elles servent? Donc bien sûr, nous avons les rapports statutaires honoraires à faire valider, bien sûr, par le comptable et l'expert comptable, pour pouvoir obtenir bien sûr des financements auprès du ministère de la Santé. Donc c'est très important, hein, que vous cotisiez, que vous nous aidiez, hein, dans cette entreprise. On a également donc le soutien, bien sûr, ça je tiens à le rappeler au cas où si ce groupe n'était pour l'instant qu'une solution, incomplète pour vous, hein, que nous sommes donc en lien avec le département interministériel de psychologie, qui nous finance à hauteur.
Et de neurosciences aussi.
Et des neurosciences, avec naturellement. Hein, ainsi donc que l'Institut dit du Lama, que l'on retrouve donc à Pekochnou, donc au sud de Lhasa, au Tibet. Voilà, donc ça, c'est nos partenaires. Et notre mission, mais c'est d'apporter donc le réconfort, c'est d'apporter le bien-être, c'est d'aider les gens à avancer. Hein, c'est d'essayer d'aller pas au-delà, hein, mais de digérer en tout cas. Hein, c'est d'essayer de se retrouver, de parler entre nous de nos problèmes communs. Alors problème, c'est peut-être un mot qui est assez dégueulasse, entendre là, comme ça, pour parler de nos sentiments. Hein.
Bah, un peu, ouais.
Mais bon, que voulez-vous ? La situation est telle qu'elle est. Donc ce qu'on va proposer aujourd'hui, c'est un programme. Donc là, vous avez commencé les sessions d'expression en groupe. Ça marche très bien, on a des très bons retours. Hein. Je pense que le taux de satisfaction atteint facilement les 38%, donc on est très heureux, hein. Quelques années c'était pas le cas. Et donc voilà, on vous incite à régler vos cotisations, on est de plus en plus nombreux, et là je vous mets le graphique hein, sur l'écran. Vous voyez donc ça, cette courbe, non c'est pas l'augmentation de la fourchure de Bernard Arnault, même si ça y ressemble fortement, non, c'est le coût en mouchoir de l'association, le coût mensuel. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a du succès, ça fait plaisir, mais du coup on a aussi des frais, et donc si on veut bien pouvoir fonctionner et continuer donc, à capter ces subventions donc, de la part des différents organismes et partenaires de ce programme, voilà, on demande un sérieux budgétaire qui donc nécessairement vous incombe. Voilà, c'était la partie très logique, très froide, hein, malheureusement. Je sais que dans toute association, malheureusement, on est obligé d'y passer. Hein. Mais voilà,
Dans toute organisation, voilà. Antoine, dans toute organisation, vous savez, il y a un aspect administratif et c'est des bénévoles avant tout qui permettent le bon fonctionnement du CBKK. Donc voilà, on va maintenant passer le micro dans l'assemblée afin que vous puissiez donc nous raconter un petit peu ce qui vous amène chez l'association des cœurs brisés karmiques et cosmiques. Donc si quelqu'un veut bien prendre l'initiative de la parole, je vois qu'une main se lève par là-bas.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Tenez bien le micro, parlez bien devant le micro.
Oui, bonsoir.
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 Fabrice.
Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Fabrice.
Ici depuis 2 ans, donc... connaissez, c'est la famille ici. Hein. Et moi, oui, ouais, toujours amoureux depuis 2001 de ce fameux satellite, hein, comme vous savez.
On a un nouveau venu ici. Il n'a pas forcément lu les récépissés des différentes réunions et précédentes. Bien Est-ce sûr. Que tu peux le rappeler brièvement?
Récapituler.
Ouais, oui. Voilà, tu sais, la rengaine ici, c'est pas du rabâchage, hein, mais on est ici justement dans une manière de se raconter où on est là pour un petit peu expurger hein, toutes ces passions qui vont nous consumer de l'intérieur depuis ces expériences si singulières. Que nous avons toutes et tous, au cours de notre existence, subi, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, évidemment.
C'est plutôt involontaire dans mon cas. C'est un amour éternel et que j'ai depuis donc 2001, l'année où j'ai fait sa rencontre, dans un espace-temps qui n'est pas très clair pour moi encore. Et ce fut passionnel, c'est passionnel. Mais c'est un amour un peu impossible. Mais pur à la fois. Qui me procure beaucoup de chagrin, mais en même temps me nourrit. Donc c'est très délicat pour moi. Cela fait de nombreuses années.
Et tu as bien avancé, hein, oui. Quand même, t'as plongé.
C'est vrai que c'était pas le cas.
C'était pas le cas.
Je n'osais pas en parler. Non, ça fait que depuis 2 ans que je vous ai rencontré, que la parole.
Et encore, je me souviens encore de ton premier jour lorsque tu es arrivé. Hein, tu n'as pas ouvert la bouche, tu n'as pas partagé un seul mot. Tu étais là, les yeux remplis de larmes, à l'écoute des différents témoignages.
Et c'est grâce aux témoignages que j'ai pu m'ouvrir par la suite. C'est en comprenant qu'il y avait des gens comme moi qui dans lesquels je me ressens et qui vivent à peu près les mêmes choses. Et cela est réconfortant. Et ça a pu libérer la parole. Donc j'espère que ma parole va pouvoir libérer d'autres paroles. Et ce groupe est super pour ça.
on se laissait aller. Moi, enfin, j'en ai jamais parlé autour de moi. Il n'y a que ici où je peux vraiment approfondir.
Et pourquoi tu es toujours dans cette démarche de ne pas vouloir partager avec ta famille cette relation qui permets-moi de réemployer tes termes, te consume et te nourrit à la fois, l'intérieur. Et il y a des fois, c'est plus, c'est moins. Quoi. C'est le yo-yo
sans arrêt.
Alors pourquoi ce choix d'exclure ta famille, tes proches?
C'est trop personnel, trop intime, trop profond, je pense, pour que je puisse en parler ouvertement. Je n'ai pas assez confiance, peut-être, dans les proches autour de moi. J'ai plus confiance en ce satellite, vraiment.
Et depuis ce 3 août, ce fameux 3 août 2001, depuis ta rencontre, t'as pas rappelé un petit peu le contexte? Nous on se souvient brièvement, hein, tu nous as dit que c'était au cours d'une colonie de vacances, feu de camp. Explique-nous, peut-être je me trompe, c'est pas l'histoire de Gilbert ça, je sais pas, je confonds, j'ai plus les fiches.
Ouais. C'est une nuit à la Belle Étoile, tout à fait, en colonie de vacances.
Tu peux pleurer, tu sais.
T'as déjà versé beaucoup de larmes, mais il y en a toujours au fond. Ne t'inquiète pas, c'est intarissable ce genre de source.
C'est une belle nuit, étoilée. Cette odeur de feu.
Attends.
C'était si intense, le coup de foudre, coup de flash.
On voit, il est lancé, on voit.
Ce fut instantané, si puissant, je me suis senti vivre pour la première fois. C'était tellement beau.
Alors, qu'est-ce que t'as ressenti lorsque ton esprit est sorti de ton corps pour rencontrer cette âme céleste?
J'ai décollé instantanément, fort, d'une puissance encore jusque-là que je n'ai jamais pu retrouver. C'était si intense. Je suis parti voltigé, valdingué. Je ne savais que faire. T'es perdu dans ce néant, mais c'est tout à la fois. J'étais dans un bien-être indescriptible, un bien-être où j'étais si heureux, et je le sentis traverser tout mon corps. J'en ai encore des frissons quand je vous en parle.
On te voit, mais tombe pas de la chaise.
Ça y est, j'arrive.
Non, mais c'est en cours, je tiens à vous informer que nous sommes en train de racheter du mobilier et que nous devrions normalement être livrés d'ici la fin du mois d'avril avec de nouvelles chaises ergonomiques qui seront capables d'accueillir les mensurations de toutes et tous pour un confort qui sera inégalable jusqu'à présent. Voilà.
Donc payez vos cotisations.
C'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Merci Fabrice. Fabrice, n'hésite pas à reprendre un mouchoir dans la boîte.
Merci, s'il vous plaît.
Alors, on sent que t'as encore toujours un petit peu de mal à évoquer, à trouver les mots de cette épiphanie, cette rencontre. Peut-être que l'écoute je vois qu'une main se lève un peu plus loin.
Ouais, passez le
micro.
Ah. Merci.
Ah.
Merci.
Et bon, si, chacun son tour. C'est bon. En plus, c'est qui ça qui a gueulé derrière? Oui, mais c'est encore lui. Ouais, bah oui. Forcément.
C'est Jean-Louis.
Jean-Louis, on t'a déjà donné le micro. Il y a 2 semaines, tu nous as fait un monologue de 2h30.
C'est bon, hein?
Non, mais on t'a dit, t'as épuisé ton crédit, là. À la limite, si tu repayes une cotisation, pourquoi pas? Mais là, non, sur le mois, c'est pas possible. Alors, du coup, qui a reçu le micro, s'il vous plaît?
C'est moi, c'est Jean-Hude.
Ah, nous avons un autre Jean-Hude, tu sais, Teresa, comme le président de l'association.
Du coup, de Jean-Eudes.
67, elle est née en 67. Beaucoup de Jean-Eudes sont nés en 67.
71,
c'est pas loin, il y a 7 dedans. Hein.
Oui, soit c'est respecté, ça va.
On est pas loin.
Bonsoir, Jean-Eudes. Bonsoir. Alors, tu es un nouveau venu.
Oui.
Oh, je vois que tu es déjà à jour de ton adhésion.
Je te félicite d'ailleurs. Ce n'est pas le cas de tous.
Hein? Oui, je vous regarde. Oui, et alors?
Vous prenez l'échec?
Bien sûr qu'on prend l'échec.
Pardon.
Et j'aimerais partager l'histoire que j'ai vécue quand j'étais dans mon lit d'hôpital.
Encore un.
T'inquiète pas, 70% des gens qui sont ici, c'est cette expérience-là.
Raconte-nous un petit peu.
Pourquoi NDE dans un hôpital, c'est ce voyage-là, c'est cette situation-là.
Raconte-nous, pourquoi tu étais. Moi, ça m'arrive pareil. Hein.
Oui, oui.
Deuxième rencontre, c'est là-bas.
J'étais jeune. J'étais jeune, j'étais fou. J'ai voulu faire une course de poubelle. En bas de la rue de Notre-Dame de la Garde, et je me suis retrouvé avec le crâne fracassé. Enfin bref, voilà, j'ai fait trois semaines de coma, et pendant ces trois semaines, je me suis retrouvé sur XB70V. Et j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et.
Tu peux respire.
Et quand je me suis réveillé de ce coma,
apportez-lui un seau.
Je suis désolé.
Je t'excuse pas.
Quand je me suis réveillé de ce coma, elle était partie. Elle était partie. Et du coup. Et du coup, j'ai. Je
peux pas s'habituer.
J'étais dans le déni et j'ai construit une... J'ai essayé de la rejoindre et j'ai claqué toutes mes économies pour modifier ma voiture. C'est une Clio 2 et j'avais tout bien fait, j'avais même les réacteurs quantiques, tout était parfait. Et au moment d'essayer la voiture, j'ai planté sur la 5. Et du coup, je sais que je pourrais jamais la retrouver. Je sais pas comment faire. Je suis complètement perdu. J'aimerais bien vous demander de l'aide. Je sais pas comment je peux faire pour la revoir. Je suis complètement désespéré.
Tu sais, Jean-Eudes, qu'on a un grand observatoire ici, à l'association.
Ok.
Avec un télescope disponible si tu souhaites observer la zone dans laquelle ta Dulcine se trouve. Tu n'hésites pas. Tu peux t'inscrire sur le cahier.
Ok, super.
Voilà.
Super, merci beaucoup.
Il n'y a pas beaucoup de délai d'attente. Si tu t'y prends 24 heures en avance, c'est quasiment sûr pour le lendemain d'avoir un rendez-vous.
Ok.
Voilà. Et d'autant plus que tu es à jour de ta cotisation, alors ça sera bien.
Ok, super.
Voilà, n'hésite pas. Et tu sais également qu'on a une cellule psychologique.
Ok.
Juxtaposée à l'observatoire.
Ok.
Si tu as besoin de t'épancher un peu plus, on a de gigantesques coussins, gigantesques poufs dans lesquels tu peux pleurer et hurler ton chagrin.
Oh,
à toute sécurité, c'est dans une salle insonorisée, on t'entendra pas. Voilà. Tu peux la privatiser ou tu peux la partager avec des collègues.
Okay.
Y a aucun problème pour ça, tu vois.
Ok, merci. Là, j'en suis à vouloir refaire une course de poubelle pour être à nouveau dans le coma.
Alors,
pour pouvoir y retourner, mais je pense pas que ce soit la bonne idée. Je sais pas, je suis complètement perdu. Je pense que la cellule psychologique me fera du bien.
Non, mais on est là pour ça, on est là pour s'entraider. Hein. Tu sais, nous, avec notre petite expérience et surtout les expériences qu'on nous a partagées. Parce qu'il y a notre expérience à nous, où la nôtre, c'est des lanternes qui n'éclairent que le chemin parcouru. Et ce qui nous permet avant tout d'avoir des phares devant hein, pour essayer de voir un petit peu ce qui nous attend, c'est bien ces histoires qu'on écoute, qu'on se partage. Mmh. Voilà. Qui nous permettent d'avancer, de trouver des forces, de trouver des manières de nommer les choses. Hein, et surtout de ne pas se retrouver dans la solitude. Parce qu'on le sait ici, tous, que dans la nuit noire, dans les draps, au fin fond du lit, hein, on le sait.
Merci. Merci beaucoup d'être là.
Ouais. On va passer le micro maintenant de suite à quelqu'un d'autre. Donc voilà, je vois une main qui se lève.
Oui. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Vanessa.
Bonsoir Vanessa, on peut saluer Vanessa. Bienvenue.
Bonsoir Vanessa.
C'est pas la première fois, c'est la troisième fois que je me
sens. Non, c'est la troisième fois. Mais sur une période de 3 ans, malheureusement. Aujourd'hui, je vis en ermite sur le plateau de Valensol. Qui était un des endroits, déjà ça sent très bon. Et puis c'est un des endroits où on peut le mieux observer le ciel. Et c'est à cet endroit que je peux garder le contact avec mon amour de là-haut. Et voilà. Et comme je suis vegan, j'ai pas de voiture. Et donc à chaque fois je dois descendre sur Marseille, ça c'est toujours un petit peu compliqué quoi. Je sais que je fais que du covoiturage avec des animaux, donc c'est voilà, on ne trouve pas forcément de propriétaire de chevaux de Manosque jusqu'à Marseille, donc c'est un peu compliqué. Mais une fois dans l'année, j'arrive à faire. Alors, moi ça me touche toujours énormément d'être ici. Et c'est vrai que c'est ici que j'ai pu trouver dans ce lieu-là. Je tiens surtout à faire un témoignage hein, pour les nouveaux. Moi j'ai trouvé beaucoup de ressources. J'ai trouvé énormément de ressources, donc qu'elles soient matérialistes, bien sûr, hein, comme le télescope, par exemple, c'est formidable, mais aussi de la ressource mentale. Hein. On a tout un travail qui a été organisé. J'ai fait le stage au Tibet de l'année dernière, et depuis, bah, j'ai fait d'énormes progrès. Et je tiens à vous dire que c'est possible. Vous pouvez retrouver. Ah. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Moi, cette première année, je l'ai vraiment consacrée d'abord à expurger un peu toute cette passion négative, un petit peu. Toutes ces pensées hein, qui me ramenaient toujours, bien sûr, vers cet être céleste cher. Alors, pour moi, c'est la comète de Tchoury, personnellement. Voilà, donc, elle fait un passage à peu près tous les 250 ans. Donc, je pense que je suis une réincarnation d'une personne qui, à chaque fois, en fait, voit la même comète et est toujours amoureuse, une sorte de balai, deux âmes hein, un petit peu séparées dans le cosmos qui arrivent quand même à se retrouver tous les 250 ans. Enfin, ça, c'est ma petite histoire.
C'est la beauté de l'univers, ça. C'est la beauté de l'univers,
ah, oui, rencontre. Et vraiment, voilà, la première année, c'est vraiment expulser, un petit peu pleurer, se rendre compte qu'on n'est vraiment pas tout seul. C'est la première étape, hein, se rendre compte qu'il y a une forme d'impossibilité aujourd'hui. On est un peu démunis dans les moyens qu'on va avoir pour justement bah, essayer déjà de retrouver hein, cet être. Hein. Je vois Jean-Eudes, par exemple, tu n'as pas retrouvé après ton coma, malheureusement. Non. Mais justement, c'est ici que tu vas trouver les ressources pour faire cette quête-là. Et donc, on est ici pour absoudre l'absence, si vous préférez. Voilà, on est là pour absoudre l'absence et surtout donc pour vous mettre sur un chemin. Voilà, sur une voie lactée, si je peux me permettre. Voilà, une voie vers les étoiles où vous allez pouvoir donc retrouver votre être aimé. Okay. Voilà.
Merci Vanessa pour ce message d'espoir.
Voilà, et bienvenue à tous, bien sûr. Et oui, je sais, je suis pas à jour avec mes cotisations, Antoine, je sais.
Bon, te pardonne, mais ouais, tu as quand même 2 ans de retard et il faudrait pas oublier de t'acquitter. Hein.
Écoute, ma vente de poils à frire en macramé a un peu de mal à décoller, mais ça va venir.
On te souhaite en tous les cas une grande réussite économique dans tout ce que tu entreprends.
Merci.
Quelqu'un d'autre veut prendre le micro ?
Moi, je vais bien aussi. Moi, je suis la grande copine de Vanessa. Bonsoir.
Bonsoir. Ah, mais oui, on t'avait déjà vu.
Alors, moi, je suis très heureux d'être ici parce que mon histoire
voilà, mon estomac, ça m'a pas mal bouleversé. Et c'est vrai que ce groupe de paroles, comme tu l'as si bien dit, ça permet de mettre des mots sur les mots, quoi. Et en plus, moi qui suis pas très forte en astronomie, toutes les cartes du ciel et tout ça, moi j'arrive pas à mettre des noms sur les étoiles, j'arrive pas à les points brillants dans le ciel, tout ça. Et tout ça, quand ça bascule, c'est quand même quelque chose, quoi. On a tous senti ce point de bascule. Moi, je me suis senti happé. Et j'en ai encore des douleurs dans le ventre. C'est pas évident. C'est pas évident d'en parler. Mais je fais cet effort pour vous, les nouveaux venus. Moi, c'est mon chagrin d'amour, ça a été avec un astéroïde.
Tiens, prends un mouchoir. Allez là, prends un mouchoir. Merci.
Il était prévu. Je l'ai rencontré lors d'une projection astrale au cours d'un stage au Bhoutan. Où, en tant que jeune économiste, j'étais en train d'effectuer des recherches en vue de l'écriture d'une thèse sur l'indicateur de développement humain qui se développait dans ce coin. Je voulais savoir comprendre pourquoi les habitants du Bhoutan n'étaient pas des Bhoutantrains, mais des gens très heureux, très, très sociables. Et c'est au cours d'une soirée où il y a ce chaman avec ses habits et cette coiffe de lama qui portait au-dessus de la tête, qui me fit boire un breuvage à base de lait de yak et de verveine concassée. Et je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre, mais au bout d'un moment, je me suis senti happé. Et c'est ainsi que j'ai fait ma première projection astrale. Alors je me souviens encore vraiment des premières minutes de flottement où au-dessus de la pièce je m'observais immobile et surtout je voyais le chaman en train d'essayer de me triturer le nez avec un bâton et moi ne réagissant pas. Moi je hurlais, je lui disais m'arrête de toucher mon nez et lui ne réagissait pas, il rigolait, les autres riaient aussi autour. J'ai décidé de fuir cette scène et là par le pouvoir de la pensée j'ai pris une grande accélération, je me suis élevé rapidement au-dessus des nuages, puis j'ai continué de monter, puis il y avait toute cette lumière au-dessus de moi, tous ces points brillants vers lesquels je m'élevais, et j'ai tout à coup baissé les yeux, et là la terre pas plus gros qu'une boule de billard, et là j'ai pris peur, et soudainement je me suis arrêté, il n'y avait pas grand-chose à côté, c'était assez perturbant, et c'est là que je l'ai vu tout à coup. Il est passé comme ça devant moi. Et dans son halo, je me suis agrippé. Et dans ses petites aspérités, je suis venu me nicher pour échapper à la grandeur de l'univers et du cosmos qui m'entourait et qui m'impressionnait. Et j'ai appris plus tard que son nom, c'était YR44. Moi, je l'appelais simplement Victor. Et vraiment, cette lumière, cette symbiose que j'ai eue avec lui, on a voyagé un petit peu de temps. Et je ne sais vraiment pas combien de temps... Réellement, nous avons voyagé, mais j'ai pu voir des amas de galaxies flotter dans les ciels, des supernovas. Enfin, c'était quelque chose de vraiment magnifique. Désolé, j'ai des étoiles dans les yeux. Et puis, c'est le retour qui fut le plus brutal. Hein. Je me suis réveillé, m'avait peint sur le visage.
j'étais dans une hutte, toute recroquevillée, avec deux pailles dans le nez. Comme une marionnette. Sortie comme une marionnette. Le lendemain, la première chose, j'ai pris mon barda. Et j'ai quitté le Bhoutan. J'ai quitté le Bhoutan. Puis, ça n'a été que... EMI sur EMI. Avec des cachets. Avec de la suffocation, tout ça pour essayer de réatteindre ce nirvana, cette capacité. Mais je n'ai plus jamais réussi à atteindre ce niveau de projection astrale pour rejoindre mon petit Victor. Petit Victor qui est tout seul là-haut. Il est dans le froid. Excusez-moi.
Donnez-les.
Je donne le micro. Je n'en peux plus.
Non, pas le micro. Prenez les mouchoirs, Cadera. Merci. Merci pour ce témoignage, Cadera.
Merci beaucoup, oui. C'est très émouvant, encore.
Merci.
Encore une fois, incroyable. Donc voilà, on est heureux de vous accueillir hein, donc, au cœur brisé carpique cosmique, hein, le CBKK. Et puis, si vous avez des questions... Donc vous avez mon email, bien sûr, antoinedelaconac@caramail.com. Donc vous n'hésitez pas, de jour comme de nuit, je suis disponible. Je suis également disponible sur Messenger, Live Messenger. Hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un whiz, quelque chose. Je réponds.
En n'oubliant pas de mentionner que vous faites partie du CBKK, parce que je le connais, il ne répond pas. Vous pouvez le whizzer, si c'est pas que vous êtes membre du CBKK, il ne vous répondra pas. Voilà.
Oui, ouais, c'est... Alors, oui, la technique, c'est de whizzer une fois, d'attendre 1 minute 13 secondes précisément, hein, bien sûr, et ensuite hein, de re-whizzer. J'ai, du coup, à force de faire des calculs de projection astrale, j'ai une compréhension du temps qui s'est fortement développée. Hein, et donc, je suis capable de millimétrer... à la microseconde de près, de mesurer à la microseconde de près le temps qui s'écoule. Donc voilà, 1 minute 13 précisément, et je décrocherai sur Live Messenger. Donc, bienvenue au nouveau. Pour les anciens qui sont à jour de leur cotisation, le prochain stage, donc cette fois-ci, on a un autre partenariat, donc c'est une école partenaire cette fois-ci, donc je vous l'avais dit, de notre école tibétaine. Cette année, ça va se passer donc, dans un pays un peu plus exotique. On va chez les lamas du Pérou cette fois-ci. Alors ça paraît, je ne parle pas de l'animal, hein, je parle vraiment du lama tibétain. Il y a une grosse communauté bouddhiste justement au Pérou. On sait que les anciens Incas, par exemple, étaient des maîtres de l'astronomie. Hein. Donc c'est un lieu spécifique, justement, particulier pour ce genre de rencontre. On n'a pas encore, de proposition à vous faire, on a lancé les devis. Hein. Voilà.
Exactement.
Et on essaie de revenir très rapidement vers vous avec un package, somme toute, très intéressant, hein, voilà, pour faire cette petite balade dans les Andes.
Petite. On prévoit quand même un oui. bon mois parce qu'il y a une bonne semaine d'acclimatation. Sur les contreforts de la cordillère des Andes, qui est prévu obligatoirement pour exactement pour afin de réguler les différents niveaux d'oxygène, de s'assurer de votre condition physique également, parce que c'est une ascension qui ne se fera pas à dos de lama ou de yak, contrairement à ce qu'on peut faire sur les contreforts de l'Himalaya, sur nos précédentes propositions vacataires. Cependant, nous mettons en place, c'est pour ça que nous avons réalisé cette campagne de financement, on nous prêtera peut-être, c'est pas encore sûr, quelques exosquelettes usagés, donc ça dépendra dans quel état ils arrivent, pour nous permettre de porter le matériel. Parce que le centre se trouve à 3600 mètres d'altitude, et il y a une série de 4000 marches à arpenter pour l'atteindre. Et vous imaginez bien, on a tenté de mettre en place une livraison par drone. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir les autorisations de vol. Voilà. Peut-être que d'ici là, on aura réglé ce problème administratif. Cependant, évidemment, vous savez, on aime bien toujours être assez prudent et garder une réserve sur les propositions qu'on vous fait. Pas essayer de vous vendre trop de rêves, essayer d'être le plus réaliste possible pour que vous puissiez souscrire avec nous à ces vacances, à cette retraite, pour ainsi dire, méditative unique que nous proposons au CBKK.
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, vous avez sur le forum, on a mis le vote, hein, donc l'année prochaine, vous savez, ce sera probablement donc le Pérou. Vous avez un sondage qui a été mis pour élire une autre destination. Alors pour l'instant, à 63%, c'est justement c'est les Indiens d'Amérique. Voilà, on va aller faire un petit tour dans une ancienne tribu Comanche, hein, qui vont un peu donc, nous expliquer eux leur rapport justement au céleste, au stellaire, au cosmique, aux étoiles et l'amour qu'ils portent justement pour cette nature et pour ces signes-là. Et donc il y a aussi toute une expérience transcendantale naturellement qui a trait bien sûr à l'expérience hors du corps, voilà, à la projection karmique. Donc d'abord c'est les Indiens. Après il y a d'autres destinations intéressantes, hein. Vous avez aussi les Aborigènes.
Absolument.
En Australie.
On est en train de développer également.
Voilà. Et puis, après, petit à petit, ben, on va s'ouvrir un peu à d'autres cultures, quoi. On va voir. On va voir. Peut-être la tribu Bamoun au Cameroun, qui a une grosse, grosse, grosse tradition de transoral. C'est à tester. Bon. Mais voilà. Allez voter sur le forum. Nous, c'est important pour nous. Ça nous aiguillera, naturellement.
Chaque vote est utile. Sachez-le.
Utilisez-le. Utilisez ce pouvoir que vous avez pour vous guérir, pour vous. Pour résoudre vos soucis, vos problèmes, tous ensemble.
Il a raison, toi, hein, c'est pas pour nous que vous le faites, hein, c'est pour vous.
Si.
C'est vous les conducteurs de la machine de votre esprit. Et votre esprit va là où vous voulez. Hein. D'accord ?
S'il veut aller vers l'amour.
S'il veut aller vers l'amour, il va vers l'amour.
Et on vous fera aller vers l'amour.
Et nous, on veut vous faire aller vers l'amour.
On est bien placé à Marseille, ici. On connaît l'amour du maillot. Et on a l'étoile. Voilà.
Merci.
Donc voilà, on vous souhaite une bonne fin de soirée et on se retrouve pour la prochaine réunion bimensuelle du CBKK. Et n'hésitez pas à venir nombreuses et nombreux, à nous prévenir si vous souhaitez prendre la parole pour les nouvelles et les nouveaux. Et n'hésitez pas pour les anciens, encore une fois, à transmettre vos coordonnées pour le parrainage en bonne et due forme, vous le savez. Voilà. Je vous remercie de votre attention et sans transition aucune, on passe à l'apéro.
Oh. Et là. Ce foutu contremaître. Je te jure qu'il aura notre peau. Moi j'en peux plus tous les jours. Pelleter, de pelleter, de casser le caillou, de mettre la dynamite. J'ai perdu un tympan dans toute cette histoire. Mais bon.
Jacques, le contremaître, m'exaspère. J'ai pas aimé ce qu'il t'a fait tout à l'heure, Billy. J'ai pas aimé.
Mais moi non plus j'ai pas aimé.
Et personne n'a aimé.
Oui, Jack. T'as pas aimé non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire alors?
Moi je propose de foutre le feu ou de se mettre en grève.
Eh, tu sais.
En grève.
Je crois qu'on a fui l'Europe pour se mettre en grève.
Ouais. Ouais. On est sur la terre des opportunités ici. On va pas se défiler devant des sagouins qui sont là simplement pour nous triquer dessus, quoi.
On est quand même. C'est nous la force vive de ce pays. C'est nous. C'est nous qui construisons cet avenir, c'est pas eux.
C'est pas eux. C'est pas Jacquemus en tout cas, qui en branle pas une, à part donner des coups de fouet et des ordres.
Moi je lui ferai exploser sa maison à coups de dynamite si ça continue.
Jack, pourquoi cette manie de vouloir tout faire péter?
Bah c'est l'artificier quand même.
Je sais, mais. Par exemple, est-ce que t'as envie de faire péter le feu en face de nous?
J'ai envie de tout faire péter, et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont fait péter ma maison en Irlande, ces foutus anglais.
Eh mais tu sais qu'ici on est américain, y'a pas d'anglais.
Plus d'anglais.
Y'a plus d'anglais, on les a chassés, mec.
Dieu merci.
On a jeté 3 caisses de thé, ils se sont évanouis. C'était la victoire assurée. Vraiment.
Je peux vous dire que moi, Jack McCoy, si je croise un Anglais, eh ben il fera profil bas.
Ne t'inquiète pas, notre constitution garantit ton pouvoir de te défendre. La reine d'Angleterre ne pourra plus jamais te demander de t'agenouiller pour elle.
Tu n'es plus un sujet de la reine.
Tu auras juste à sortir ton col 45 et lui foutre un pruneau entre les deux yeux. Assez. Sur mon royal front.
Pour un royal front. Bien.
Toujours est-il que ce chantier, c'est vraiment le chantier.
Un sacré chantier.
J'en ai fait des trucs dans ce pays. Les mines d'or du Texas, en passant par les puits de pétrole de la Californie. Jamais j'ai travaillé comme ça. Jamais dans ces conditions-là.
Et tout ça pour quoi ? Pour une foutue chemin de fer ?
À quoi il va servir ? Il va le relier la côte est à la côte ouest.
On le fait déjà très bien à cheval. Pourquoi changer ? Ce vieux rêve, tu parles. Ça, c'est que les bourgeois qui débarquent d'Europe avec leurs grands projets, mais qui n'y connaissent absolument rien.
On n'en peut plus.
Ça fait la fête dans les Five Points.
Nous, on veut dépasser tout ça. On veut quitter l'ensemble.
Et vous savez ce que vous allez faire une fois le chantier terminé ?
Avec tous les dollars qu'on aura gagnés ?
Moi, je compte ouvrir une boutique de navettes. Ouais, je me verrai bien au Texas, sur une petite plage. Ouais, ça m'irait bien.
Intéressant.
Ouais. J'aime bien les navettes.
Et toi, Johnny, tu ferais quoi ?
Moi, je pense que je cultiverais un champ de pavot. Un champ de pavot.
Du pavot ?
Oui, du pavot.
Du pavot.
Ça m'irait bien, je pense.
Mais à quoi ça sert ?
Pour la défense, Mike.
Oh, tu sais...
La héroïne avec le pavot. Oh. Hey, tiens.
Ouais. Ça,
on
c'est
va
la
en
drogue.
Faire du pognon.
Moi, je préfère mon whisky.
On va en
ça,
faire
c'est
la caillasse.
Fais passer la bière.
On est quand même bien au fond autour de ce feu.
Ouais.
Loin de Jacquemus.
Loin de ses vociférations.
Mal au dos.
Allez, à la vôtre.
À la vôtre, les gars.
À nous.
Tiens.
Et à notre futur.
Et à notre futur. Toi, qu'est-ce que tu veux faire, mon petit Jack, avec le pécule que t'es en train de réunir ? À force de triver, à faire péter la roche, pour faire des tunnels.
Je pense que j'irai en Chine suivre une formation d'artificier.
Tu es déjà artificier, Jack.
Oui, mais des feux d'artifice, pas des explosions.
Et quelle est la différence ?
Des feux d'artifice, c'est beau, des explosions, ça fait mal.
Alors pourquoi tu veux tout faire péter ?
Parce que je veux faire mal.
Et pourquoi tu veux faire mal ?
Parce que j'ai une haine envers ces Anglais.
Mais pourquoi les Anglais particulièrement ?
Parce que je suis Irlandais.
Et pourquoi t'es Irlandais ?
Ah, bonne question, faut le demander à mes parents.
Tu vois, il y a toujours des questions qui restent sans réponse.
Oh là là.
Et moi, ça me troue. Ça me troue.
Ouais, toujours ouais. L'impression d'avoir pris une balle de Colt 45.
Toujours. Et le soir, ça fuse sous ce ciel étoilé. Ouais. Il fait bon autour de ce feu.
On est bien, les gars.
C'est déjà arrivé. Dans les grandes plaines, un beau soir de ciel dégagé. Voir une étoile filante et tomber amoureux d'elle. Ouais, non, oubliez ce que j'ai dit,
Ouais, c'est trop romantique.
C'est le whisky,
je vous
déconne.
Non, mais c'est bon.
Ouais, c'est pas le CBKK ici.
Oh ! Bah, qu'est-ce que c'est que ça ?
Me dis pas que c'est encore les Hollandais qui ont produit.
Oh non, putain, c'est les Anglais.
Sur qui ils tirent ?
Non, du calme, Jack, du calme, Jack. C'est pas forcément les Anglais. Je te rappelle qu'on est à Titusburg. On est en Pennsylvanie. Avant qu'ils arrivent ici, les Anglais, il faudrait des gars qui prennent New York et Boston.
Ouais, t'as raison.
Et ils ont pas réussi la première fois. Et ils y réussiront pas.
La deuxième.
La deuxième.
Surtout depuis qu'on a installé cette espèce de grande statue à l'entrée du port de New York. Quelque chose me dit que... on peut s'y mettre à l'intérieur. On peut s'y cacher à l'intérieur et on peut tirer sur les navires de loin. Une sorte de forteresse camouflée. On croit que c'est une statue et puis arriver au pied, brrr, c'est l'explosion.
Ah, c'est pas c'est toi, ça, Jack. Bien, ça.
Ah oui. Mais pour moi, c'est pas une manière de se battre.
C'est lâche, ouais.
C'est lâche.
Moi, je suis lâche. Forme.
Non, on n'a pas dit que t'étais
lâche,
Jack.
On a pas
lâche,
dit que les explosifs, c'est lâche. On a dit que se déguiser pour pouvoir attaquer, c'était lâche.
Non, 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 non. Moi, j'inviterai tous les Anglais d'Angleterre à venir voir cette statue. Et au dernier moment...
Qu'est-ce que tu ferais au dernier moment ?
Je ferais tout péter et il n'y aurait plus d'Anglais sur cette planète.
Ouais, mais bon, si t'as plus les Anglais, c'est les Français qui vont appliquer pour réclamer leur statut.
Ah, merde, j'avais oublié les Français.
On raconte que la reine est immortelle. Est-ce que tu crois qu'une explosion, ça pourrait la tuer ?
Ouais, je pense qu'elle boit une décoction alchimique à base de sang d'enfant.
Ouais, j'ai lu ça dans un journal.
C'est bien les Anglais qui font ça.
On n'a pas de palais rouge pour rien. Moi, personnellement, qu'est-ce que je ferais avec tout ce magot ? Je ne sais pas. Peut-être que j'achèterai une diligence et que je ferai des trajets à travers toute l'Amérique. Au final, ma plus grande richesse... C'est pas avec mes mains que je les ai créés.
C'est avec tes pieds ?
Non plus. C'est non, c'est avec mes fesses.
Oh.
En restant assis, le cul contre la terre gelée, cette putain de Pennsylvanie, autour d'un feu de camp, avec vous, c'est là que j'ai trouvé ma richesse.
J'ai pas glandé une, quoi.
Non, tu confonds. Justement, c'est ne rien faire après avoir fait. C'est là qu'est toute la récompense.
Ouais,
c'est la rencontre, c'est l'autre. Alors une diligence, c'est le meilleur moyen de rencontrer les gens. Et de voyager. Et de découvrir de nouvelles cultures dans notre beau pays.
Et t'as pas peur que la diligence soit remplacée par le train qu'on est en train de construire ?
Moi j'ai pas confiance en cette technologie. Ouais. Même ce qu'on est en train de monter là, cette espèce de... Et puis, pour extraire cet or noir, comme ils disent,
ouais.
Ça va nous péter à la gueule, ce truc. Ça n'a aucun avenir, j'en suis sûr.
Ça pue.
Ça sent pas bon.
Et ça fait tout cramer.
Alors, quand j'aperçois des bourgeoises, quand je suis en ville à Saint-Denis, et qui se plaignent que mon cheval lâche deux crottes devant le salon de luxe,
ouais.
On dit, viens sur le champ. Viens sur les champs d'or noir. Viens voir le pétrole. Tu vas comprendre.
Viens sur les derricks.
Bien sué.
Et viens recoltiner Jacquemus surtout.
Celui-là. Je sais pas où est-ce qu'ils nous l'ont trouvé. Jacquemus. Si tu veux mon avis, ça ne rime pas avec un certain mot pour rien.
Ouais.
Elle est bien bonne celle-là.
Jacques Roule, mais la malse pas mousse. Jacques Mousse.
En parlant de petite pousse.
Ouais, ta santé, là.
Allez, à la
à route,
les gars.
Les gars.
Putain, arrête, me regarde pas comme ça, toi. Ta gueule. Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que t'as me regardé de travers ?
Mais où ?
Hé, Billy, qu'est-ce que t'as me regardé ? Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Walter,
j'ai pas insulté ton cheval.
Attends. Tu parles
j'ai
de Diego là
ton cheval.
Tu parles de Diego là? Tu oses mentionner son nom ici?
Je n'ai pas mentionné Diego.
Et pourtant tu mentionnes son cheval. Diego, son cheval, le cheval, Diego. C'est du pareil au même. Tu le sais très bien, Walter.
Je le sais.
mais je ne peux m'empêcher de d'effacer son souvenir. Lorsque je vois les flammes crépiter et le son de ta guitare, je ne fais que penser à lui. Il est parti trop tôt retrouver sa femme. Il a de la chance.
Il nous a abandonnés, tu veux dire.
Ah, moi je garde espoir qu'il viendra nous revoir un jour.
Tu penses qu'on reviendra un jour?
Ouais. Diego. Pas sûr, mon petit Jack, pas sûr. Le Diego est depuis longtemps devenu caduc.
Quoi?
Ouais. Il est devenu grand caduc.
Comment ça, il a vu le grand caduc?
En achetant un lopin de terre dans le Massachusetts, il a obtenu ce titre honorifique de grand caduc.
Qu'est-ce qu'il a à voir avec un putain de hibou?
Je ne sais pas, c'est la tribu des Indiens qui l'a nommé ainsi.
C'est pas parce qu'il produit du vin, le grand caduc de Bourgogne.
Peut-être.
C'est pas le hibou caduc?
Il a apporté les réponses dans sa tombe, avec sa femme et ses gosses.
J'arrive pas à croire que tu gardes cette coupure de journal annonçant sa mort.
Ah, sacré Pinkerman.
Faut tourner la page, Walter.
T'as raison, Billy.
Et le meilleur moyen de faire ça, qu'est-ce que c'est?
C'est de boire.
C'est de boire.
Non, c'est de tout faire péter, les gars.
Et de creuser.
Creuser sa tombe. Creuser. À la picole.
Et à la vôtre.
Ouais. Est-ce qu'on ferait pas un rami?
Allez, c'est parti.
Rami?
Ouais.
Tu veux dire l'ouvrier qui est arrivé il y a deux jours là?
Je parle du jeu de cartes. Ah. Est-ce qu'on dit le rami? T'as dit le rami?
Ouais, c'est lui dont je parle, moi. Et c'est censé être le spécialiste du sable. Il vient de là-bas, là, de l'Africa.
Je te laisse pas dire des choses comme ça, Jack.
Ah, écoute,
opportunités ici.
Tiens à voir Jack Mus, lui demandera pourquoi il a embauché.
Je fais pas confiance à ce mec-là.
Ici, c'est la terre des opportuns. Je te laisserai pas bafouer ce pays. Ne me regarde pas comme ça.
Qu'est-ce que tu cherches?
Ma Winchester. Eh, mais... Où est passée ma Winchester? Eh... Mais... Walter, c'est toi qui as touché ma Winchester? Non, Jack?
Oh, j'ai pas ta Winchester.
Elle était juste là derrière. J'étais sûr de l'avoir prise.
Elle était juste là derrière.
Je t'avais dit d'arrêter cette...
Tu l'avais pas posée près de la Gatling?
Non. Où est ma Winchester, bordel de merde?
Mais tu veux que je te dise?
Quoi?
T'es trop bourré, je l'ai planqué.
Mais pourquoi t'as fait ça?
Mais je te fais pas confiance quand t'es bourré.
Est-ce que c'est moi qui planque tes bâtons de dynamite, hein? Non. Alors tu vas, s'il te plaît, rendre ma Winchester.
Tu cherches vraiment de la merde?
Ne mets pas la veste sur la... Sur...
Non mais...
Oh non.
Ah bon?
Oh non.
Tu veux pas me la rendre? Tu veux pas me la rendre?
Ah non, range ça. Ah ouais. Ah, ah.
Ready?
Je vous l'ai dit, c'est dans la Constitution. Je peux pas me retirer ce droit-là. Il a violé mes droits.
Bon, on se la fait cette partie de Rami.
On se la fait cette partie de Rami.